Merci d'écouter RFI. Il est 10h en temps universel, 11h ici à Paris, 1h de plus à Gaza.
Simon Bourtembourg.
Le cessez-le-feu est effectif entre le Hamas et Israël. La trêve est finalement entrée en vigueur il y a 45 minutes. Après 15 mois de guerre, l'aide humanitaire va pouvoir à nouveau entrer dans l'enclave palestinienne où des milliers de déplacés prennent la route pour rentrer chez eux. J-1 aux États-Unis, Donald Trump est arrivé hier soir à Washington où il prêtera serment demain. À la capitale américaine où, comme dans les grandes villes du pays, des rassemblements ont lieu pour le droit des femmes et des minorités. Dans cette édition, nous serons également en Haïti où 217 soldats kényans viennent d'arriver. Ils sont déployés pour faire face à la violence endémique des gangs. Et puis, une annonce qui satisfait les producteurs de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Le prix de la graine au bord du champ bondit de 54%. Le cessez-le-feu à Gaza en vigueur, et ce avec près de 3 heures de retard. La trêve est maintenant effective alors qu'encore ce matin, l'armée israélienne a mené des frappes et tué 8 personnes dans la bande de Gaza, selon la défense civile locale. Depuis, comme l'exigeait ce matin Benjamin Netanyahou, le Hamas a publié les noms des 3 otages israéliens qui doivent être libérés dans la journée. Il s'agit de civiles israéliennes âgées de 23 à 30 ans. Pour les familles des 30 autres otages qui doivent encore revenir de Gaza, l'incertitude est infernale. Le père de Yermoz est âgé de 80 ans. Il a été enlevé le 7 octobre 2023 près de la bande de Gaza. S'il figure sur la liste des 33 premiers otages qui seront libérés, il ne sait pas si son père est encore vivant et encore moins quand il sera rendu par le Hamas.
J'étais content de dire notre nom, Moses, sur la liste, mais nous ne savons toujours rien de la situation de mon père. Rien. Nous attendons de savoir quand ils le libéreront. Il paraît que les 2 premiers échanges concerneront des otages femmes et il y aura 1 semaine entre chaque échange. En 1 semaine, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Nous espérons que les 2 camps seront assez patients, qu'il n'y aura pas de rupture sur un détail. Nous espérons vraiment que ça tiendra et que tout le monde rentrera.
Un témoignage au micro de notre envoyé spécial en Israël, Nicolas Falaise, et ce premier jour de cessez-le-feu marque aussi la fin des restrictions israéliennes à l'entrée de l'aide humanitaire et du carburant essentiel pour faire fonctionner les hôpitaux de Gaza. 600 camions par jour dans l'enclave palestinienne, c'est autant qu'il y a 15 mois avant le début de la guerre. Sous sa tante Aran Younes, Anan Arara est soulagée et angoissée. Cette mère de famille est au micro de notre correspondant à Gaza, Rami El Megari.
Mes enfants vont enfin pouvoir manger à leur faim. On n'en peut plus de la famine et de la misère. On ne veut plus vivre assiégé. Toute cette situation me rend heureuse et triste à la fois. D'un côté, je me dis, la fin de la guerre, c'est la fin des déplacements forcés à répétition, des destructions, de la mort. Mais maintenant, comment se réjouir lorsque votre famille est décimée? Ma vie n'est que peine et deuil. Il faut que ça cesse.
Et cette trêve, elle suscite également de la controverse en Israël, notamment du côté de l'extrême droite. Le parti Force Juive du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé quitter la coalition au pouvoir. La formation politique d'extrême droite parle d'un accord de cessez-le-feu scandaleux avec le Hamas. Cette annonce ne fait cependant pas chuter le gouvernement qui bénéficie toujours d'une courte majorité au Parlement israélien. Donald Trump est arrivé à Washington. Il est donc depuis hier soir dans la capitale américaine pour une réception dans l'un de ses golfs. Le lancement ainsi de 4 jours de festivités dont le point d'orgue sera son investiture demain comme 47e président des États-Unis. Les États-Unis de retour donc 8 ans en arrière et comme en 2017, des manifestations ont lieu ce week-end pour le droit des femmes et des minorités. Des rassemblements même dans des bastions républicains. Notre correspondant Edouard Maille a suivi l'un d'eux, c'est à Cumming en Géorgie.
Une 50aine de personnes défilent dans le centre-ville. Sur la pancarte de Nadia, 25 ans, le slogan « Mon corps, mon choix », référence aux interdictions d'avortement, et elle craint de perdre d'autres droits.
De nombreux responsables politiques veulent limiter les conditions pour divorcer. Et puis, il faut qu'on fasse en sorte de toujours avoir accès à la contraception.
Une inquiétude partagée par Hans Lee, 21 ans.
Je veux pouvoir aller au supermarché sans avoir peur qu'une personne me suive ou qu'elle me pointe avec une arme à feu, car les lois pour les armes sont très faibles, à tel point que j'ai moins de droits sur mon propre corps qu'avec les armes à feu.
Les manifestants s'arrêtent devant une plaque commémorative d'un homme noir lynché il y a plus de 100 ans. Le comté était un bastion de mouvements suprémacistes blancs. Seulement depuis les années 90, des personnes noires ont commencé à revenir, raconte James, 63 ans, lui-même afro-américain.
Je suis assez vieux pour me souvenir des personnes noires qui manifestaient pour les droits civiques, tabassées et attaquées avec des canons à eau. Donc je suis toujours très inquiet d'un retour en arrière. Et quand nos dirigeants ne soutiennent pas ces mouvements, il faut être inquiet.
La manifestation terminée, une organisatrice se réjouit qu'il n'y ait pas eu de violence avec des républicains. Edouard Maille, Cumming en Géorgie, RFI.
RFI, 5 heures passées de 6 minutes à Port-au-Prince, Haïti, qui accueille un nouveau contingent de policiers kényans. 217 hommes supplémentaires ont été déployés pour une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, confrontée à la violence endémique des gangs armés. Les ambassadeurs des États-Unis et du Canada, le directeur général de la police nationale et le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique étaient donc présents hier à l'aéroport international de Toussaint-Louverture pour accueillir ces policiers. Correspondance de Peter Luxama depuis Port-au-Prince.
10h du matin, l'avion transportant les policiers a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Toussaint-Louverture. Armes à la main, casque sur la tête, les nouveaux agents de la MMAS sortent de l'avion en chantant et en arborant le drapeau kényan. Cette nouvelle troupe rejoint les 400 policiers kényans déjà présents sur le sol haïtien. Leur objectif, aider les forces de l'ordre haïtiennes à lutter contre les gangs armés. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean salue l'arrivée de ces nouveaux policiers.
Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle troupe kényane. À la fin du mois, un autre contingent arrivera en Haïti pour nous aider à faire face aux nombreux défis que connaît le pays.
De fait, le pays est confronté à une violence sans précédent avec des gangs armés qui sèment la terreur. Fritz Alphonse Jean persiste et signe, quelque chose doit changer.
Actuellement, Haïti se trouve à un point de bascule. Le pays doit changer et il changera. Nous sommes dans une situation de guerre et nous devons faire face à cette guerre.
Les soldats et policiers qui devront faire partie de la mission multinationale arrivent au compte-gouttes à Port-au-Prince, tandis que la paix peine à se rétablir. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
En Côte d'Ivoire, le lancement officiel de la campagne 2025 de commercialisation de la noix de cajou. Le prix bord du champ du kilogramme est fixé à 425 francs CFA contre 275 l'année dernière, soit une augmentation de 54%. Une annonce qui suscite à la fois la satisfaction et les attentes chez les producteurs. Abdoulaziz Diallo.
Réunis au parc des expositions d'Abidjan Port-Boué, les acteurs de la filière ont salué cette revalorisation du prix bord champ de la noix de cajou. Une avancée qui, selon eux, traduit la reconnaissance de leurs efforts. Mais le respect du prix plancher sur le terrain demeure une préoccupation pour ce cultivateur venu du nord de la Côte d'Ivoire.
Nous, les agriculteurs, nous sommes satisfaits de ce prix. Mais ce que nous craignons, c'est que certains acheteurs baissent les prix et achètent même parfois à 75 francs CFA le kilo. C'est ce qui nous fatigue. Notre souhait, c'est que les prix fixés par le gouvernement soient respectés. Si le gouvernement dit 425, qu'ils achètent à ce prix.
Pour apaiser ses craintes, le Conseil coton Anacard annonce des mesures strictes pour protéger les producteurs et éviter qu'ils ne soient grugés par des acheteurs véreux. Mamadou Berté, directeur général de l'institution, appelle les producteurs à la vigilance.
Un acheteur qui vient et qui vous dit que je vais acheter en dessous du prix, vous êtes le seul maître pour lui dire non, il y a un prix qui a été fixé. Nonobstant cela, nous avons pris des mesures pour qu'aucun prix ne soit en dessous du prix qui a été donné par le gouvernement.
Avec près de 945 000 tonnes produites en 2024, la filière Anacard a enregistré une baisse de 23% de la production par rapport à l'année précédente. Malgré cela, plus de 600 000 tonnes ont été exportées et le taux de transformation locale reste à 30%. Un chiffre que les autorités espèrent porter à 50% d'ici 2030. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Un mot de tennis pour refermer ce journal et le numéro 3 mondial Carlos Alcaraz s'est hissé sur abandon en quart de finale de l'Open d'Australie. Il pourrait retrouver Novak Djokovic qui disputera son 8e de finale en début de soirée à Melbourne. RFI, 11h passées de 10 minutes ici à Paris, une heure de moins en temps universel.